Bonjour, chers auditeurs. Ici Radio Grand Ciel, Châteaudun. Pour notre émission Histoire et Mémoire, nous sommes à nouveau avec notre grand spécialiste Jean-Claude Galerne et au micro Henri Méchel. Alors Jean-Claude, cette fois-ci, de qui vas-tu nous parler dans les rues de Châteaudun? Parce que tu nous promènes déjà depuis un certain temps dans ce coin-là.
Alors aujourd'hui, nous ne ferons qu'une seule rue. Ce n'est pas habituel, mais nous allons rencontrer un personnage absolument extraordinaire. Il s'appelle Louis-Ange Pitou, dit Pitou. C'est un Dunois très célèbre, dont on ne parle peu. Ce n'est pas un scientifique, ni un militaire, ni un politique, ni un comédien. Et pourtant, il est né à Valainville le 2 avril 1767 de Louis Pitou, tailleur, et d'Anne Cotin. Son parrain, à Louis-Ange Pitou, est régisseur de la terre de Mémillon et sa marraine s'appelle Marie-Anne Godet. Très jeune, il est orphelin de père et de mère. Sa tante veille à son éducation. C'est un élève brillant du collège de Châteaudun, qui est à l'époque rue Touffert. Elle va ensuite le faire entrer au petit séminaire de Chartres. Eh oui, pourquoi pas, pour en faire un curé. Mais en 1789, il s'enfuit du séminaire. Il monte à Paris, où il arrive le 21 octobre en pleine révolution. Il assiste au meurtre du boulanger François par la foule des sans-culottes, qui prend d'assaut le pain de sa boulangerie. Il en est indigné. Tous ces révolutionnaires sont des assassins. Et cela renforce à lui, Ange Pitou, ses convictions royalistes. Il va embrasser la carrière de journaliste, favori de la monarchie. Et Marie-Antoinette, qui a entendu parler de ce jeune homme, le reçoit le 10 juin 1790, aux Tuileries. C'est le coup de foudre. Il s'en prend au roi, mais pas à la monarchie. Monarque faible et indigne de l'auguste épouse qui le reçoit dans son lit. Voici ce qu'il écrit. Il est rédacteur du courrier extraordinaire dirigé par Rivarol et du journal des mécontents. Cependant, et c'est là une des contradictions d'Ange Pitou, il est royaliste, mais il entre dans la garde nationale. Comme cela, il est informé de ce qui se passe et complote avec les Vendéens, avec les Chouans. Mais bien sûr, il se fait arrêter. Alors, il connaît la conciergerie et le fort de Bicêtre pour y faire quelques passages. Il est très apprécié du peuple parisien. C'est un des journalistes les plus entreprenants qui a l'oreille du public parisien. C'est le plus en vue du journal Les Annales Patriotiques et Littéraires. J'ai commencé, dit Ange Pitou, à chanter le 1er juillet 1795 à 5 heures du matin. J'avais fait ma journée et j'allais compter ma recette dans un petit cabaret borgne où je trouvais des gens attablés qui me donnèrent un gros morceau de pain. En ce moment de disette, ce fut pour moi un gros monceau d'or. Une marchande des Halles dit qu'un chanteur sans violon sonne comme un pot cassé. Elle exagère, car un verre de cassis met de la colophane à l'archer et des verrouilles de gosier. Je suis ceinture de rue, certes, mais ne suis-je pas, en fin de compte, un instituteur du peuple? C'est Pitou qui va écrire les paroles de la fameuse chanson « Les collets noirs », signe de deuil des royalistes, après, évidemment, que furent guillotinés Louis XVI et Marie-Antoinette. Il écrit dans l'Olympe radieux, quand Vénus sortait de l'onde, fut admise au rang des dieux. On dira qu'elle était blonde pour lui donner l'air de plaire. L'amour fit percevoir près du temple du mystère son collet bordé de noir. Ce collet bordé de noir signifiait la guillotine pour les royalistes. Pour cette chanson révolutionnaire de plusieurs couplets et refrains, il est cité devant le tribunal révolutionnaire. Mais le bougre a de la répartie, il est acquitté. Il est plus journaliste, il est devenu chanteur des rues, un chansonnier des satires politiques. C'est un gouailleur qui écrit les Jacobins et le Directoire, mais vante la monarchie. Et il est à peine dehors de la prison qu'il étrille à nouveau les Jacobins et le Directoire. Républicain, aristocrate, terroriste buveur de sang, vous seriez parfait démocrate si vous nous comptiez votre argent. Et comme la crise est urgente, il vaut vous conformer au temps et prendre tous une patente pour devenir honnêtes gens. Mais peut-on payer une patente pour avoir le droit de tuer des gens ? Il va encore plus loin et va participer au coup d'État du 4 septembre 1797. C'en est trop, il est arrêté le 30 août 1797. Cette fois-ci, il ne peut plus échapper à la prison. Pire, c'est d'abord la condamnation à mort. Eh oui, il va se trouver dans la charrette des condamnés si Dieu ne vient pas le sauver. Entre parenthèses, Dieu agit quelquefois, puisque les 12 condamnés à mort de la prison de Châteaudun ne seront pas guillotinés. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Parce qu'à l'époque, on a transformé le nom de Châteaudun. On l'a appelé Dain. Et lorsque la bande à Robespierre va vouloir guillotiner nos 12 Dunois, au lieu d'envoyer l'ordre de conduire les 12 condamnés à la guillotine à Paris, on va envoyer la missive à Dain-sur-Oron. Entre-temps, Robespierre tombera et nos Dunois ne seront pas guillotinés, et Pitou non plus. Il y a combien ? 10 minutes ?
8 minutes.
Hein ? 8 minutes. 8 minutes.
Eh bien, Jean-Claude continue à nous émotionner avec l'histoire d'Ange Pitou.
Oui, donc notre Ange Pitou a sauvé sa tête. Il n'est pas guillotiné. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un journaliste qui, par essence, est royaliste en pleine révolution ? On ne va quand même pas le garder à Paris à exciter la foule pour faire revenir la monarchie et les rois. Donc, on va trouver une solution. Le bagne de Cayenne, il n'est pas ouvert officiellement, puisqu'il ne sera ouvert que sous Napoléon III. Il y a bien le bagne de Brest, il y a le bagne de Toulon, Mais à Cayenne, il y a plus ou moins... allez, non pas une colonie de vacances, mais on envoie déjà les gens qui sont indésirables. On les envoie très loin. Donc on va décider que Ange Pitou ira à Cayenne. Mais pour aller à Cayenne, la route est longue. D'abord, il faut aller de Paris à Rochefort pour prendre le bateau, et après, par bateau, aller à Cayenne. Mais tout cela, à l'époque, cela se faisait à pied. C'est-à-dire qu'on n'allait pas mettre à la disposition du déporté un car, même hippomobile. Pas du tout. Il va aller donc à Rochefort à pied, escorté par deux gendarmes. Parce que on oublie vite, mais dans les années au milieu du XXe siècle, lorsqu'on arrêtait un malfaiteur, souvent les deux gendarmes lui faisaient traverser la ville à pied, alors qu'il avait les menottes à chaque main étaient attachées aux gendarmes. On le promenait devant la foule. Eh bien, Ange Pitou va donc partir de Paris et, par haltes successives, va aller jusqu'à Rochefort.
Et les gendarmes, ils étaient à pied ou à cheval ?
À pied, à l'époque. Le gendarme l'accompagnait à pied. Là aussi, sans doute, par des soucis d'économie gouvernementale. Donc, voilà notre Ange Pitou parti et on lui a donné deux compagnons. Donc, ils sont trois à être déportés et il y a donc trois gendarmes. Qui sont-ils, ces compagnons, Ange Pitou ? Il y a un bénédictin de Vendôme nommé Cormier et un jeune officier qui est trop royaliste pour rester dans les armées de la Révolution. Donc, on va le déporter aussi. Au moins, quand il sera à Cayenne, il ne posera pas de problème. On passe par Versailles, et puis, évidemment, pour aller sur la route de Rochefort, on va passer à Chartres. Mais à Chartres, Ange Pitou, il connaît. Il était au séminaire à Chartres. Donc c'est son pays, Chartres, un peu. Donc, il revoit la cathédrale. On ne parle pas encore du chemin de Péguy, n'est-ce pas ? Mais comme Péguy, plus tard, il voit cette cathédrale au loin lorsqu'il arrive vers Ablis. Et il se dit, enfin, je suis un peu chez moi. Halte à Chartres, il passe la nuit à la prison. Et le lendemain, on repart. Et le soir, on va faire halte à Bonneval, à la prison de Bonneval. Et à la prison de Bonneval, il retrouve le chef de la gendarmerie qui est marié avec une dunoise, avec qui Ange Pitou a dîné quelques années auparavant chez des amis à Châteaudun. Donc, il est en pays connu. La jeune femme reconnaît Ange Pitou, l'invite à dîner à la table du chef de brigade, et donc il va le faire un bon repas avant d'aller dormir dans la prison. Le lendemain matin, après avoir eu un bon petit déjeuner, servi par son ami, il va repartir et il arrive à Marboué. Marboué, le Loir, il connaît, parce que un petit peu plus loin, à Marboué, il y a la Conie qui se jette. Et la Conie, Ange Pitou, il est de Valainville. Son village natal, c'est Valainville. Il sait très bien la Conie, parce qu'il a failli s'y noyer lorsqu'il était enfant. Donc ça lui rappelle des souvenirs. Donc il va se remémorer un peu son enfance en passant le Loir. Et évidemment, il arrive très rapidement à Châteaudun. À Châteaudun, la prison se trouve en centre-ville, près du château, tout près du collège où il a commencé ses études, à côté de l'église Saint-André. Ah, me direz-vous, l'église Saint-André. Eh bien oui, elle était sur la place Saint-André aujourd'hui. C'était une église. Et c'est juste à côté que la prison se trouve. Le directeur de la prison est un vieil ami de collège dans Spitou. Dazar, le commissaire du peuple. Le chansonnier dira qu'il n'avait pas pris la même route. Enfin, Dazar est un révolutionnaire. Et Pitou, un royaliste. Mais malgré tout, ils étaient à l'école ensemble. Ils sont copains. Donc, on va se raconter un petit peu comment on a fait pour en arriver là. Et on va inviter les amis du Dunois. Des noms que l'on connaît. Rousseau. On va inviter Dimier. On va inviter Lumière. Un de ses descendants sera maire de Châteaudun au moment de la guerre de 1870. Ils accourent à la prison. Il y a même son amourette de jeunesse, qui est certes mariée à un ancien curé qui a jeté sa soutane par-dessus le moulin. Mais les deux viennent le réconforter. Alors, évidemment, on va dire à Pitou, écoute, tu vas quand même pas aller au bagne, on va te faire évader. Tu restes à Châteaudun, discrètement, tu disparais, tu es chez toi et on parle plus de rien. Ensuite, Pitou dit, Néni, je veux aller à Cayenne. Bah quand même, écoute, non, non, moi, je suis condamné aux travaux forcés à Cayenne, je vais à Cayenne. C'est tout à fait Ange Pitou.
Il avait envie de voyager.
Il avait envie de voyager. Tout à fait. Le lendemain, il est en direction de Cloix, qui traverse toujours, encadré par quelques gendarmes, pour arriver le soir à la prison de Vendôme. De Vendôme, on passe partout et on continue. Et on va arriver à Rochefort. Et le 12 mars 1798, le bateau va appareiller de Rochefort avec 194 autres déportés. Le bateau, c'est la Charente, qui doit le conduire, évidemment, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ils sont attaqués par les Anglais. Le bateau est dérouté vers Bordeaux et n'est plus en état de naviguer. Alors on transfère tout le monde sur la Décade avant de fixer le cap sur la Guyane, le 22 avril. Parmi cette population, il y a 45 religieux qui ont certes échappé à la guillotine. Vous me direz, plus tard, il y en aura encore 120 sur la Bayonnaise et 57 sur la Vaillante. On a ajouté à ces curés quelques savants ou députés indésirables. Il faut dire qu'ils ont échappé à la guillotine. Ce ne sera pas le cas des Ursulines de Valenciennes, dont on a guillotiné une douzaine en 2 jours, sans motif réel, parce qu'elles portaient la robe et qu'elles étaient juste en face de la guillotine. La même guillotine tranchera le cou le lendemain à l'abbé Pontois, toujours à Valenciennes. Et pourquoi on parle d'abbé Pontois ? Parce qu'on notera que c'était un des oncles ancestrales de Geneviève, une paroissienne du Sacré-Cœur de Châteaudun. Non, ils ne vont pas être guillotinés, mais ils vont goûter à la guillotine sèche. C'est ce qu'on appelle à l'époque le bagne de Cayenne. Mais pourquoi sont-ils déportés ? Eh bien, parce qu'il y a un arrêté révolutionnaire. Article 1er. Tous les ecclésiastiques réguliers et séculiers frères convers et laïcs, qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité, conformément à la loi du 15 août 1792, seront transférés à Cayenne. Article 2. Seront sujets à la même peine ceux qui seront dénoncés pour cause d'incivisme par 10 citoyens dans le canton. La dénonciation sera jugée par les directions de département sur l'avis des districts. Article 3e. Les serments postérieurs au 23 mars seront déclarés non avenus. Donc, les prêtres réfractaires, pour une bonne partie, vont se retrouver à Cayenne. Le voyage sur ce bateau dure 2 mois. À l'arrivée, les ecclésiastiques sont conduits pour la plupart à l'hôpital, qui est dirigé par les sœurs de Saint-Paul de Chartres. Il y aura encore 300 prêtres réfractaires en 1798 de déportés à Cayenne. Donc Pitou est en connaissance. Lui, l'ancien petit séminariste de Chartres, qui a failli devenir curé, il est au milieu des siens.
Alors, Ange Pitou est donc en route sur... Il est arrivé à Cayenne.
Il est à Cayenne. Alors, il va vivre à Cayenne. Enfin, Pitou, qui est un optimiste par nature, n'est pas trop malheureux. Bon, il va connaître les conditions du bagne, le cachot, les privations de nourriture. Il va côtoyer la peste qui fait des ravages en Guyane, des lépreux. Certains bagnards de droit commun... de gardiens impitoyables, comme ce fils de fermier de Beauce qui règne en maître absolu sur le bagne. Et au moindre problème, il envoyait les bagnards assécher les marais. Le marronnier n'avait pas une bonne réputation. Mais Ange Pitou va s'adapter et devenir très vite un des bagnards les plus appréciés de la communauté. Il n'est pas à plaindre, puisqu'il ne va faire que 3 ans de bagne. Et dans ses compagnons d'infortune, qui vont repartir de Cayenne au bout de 3 ans, on pourra citer le chanoine Doru de Châteaudun, qui avait 70 ans, qui était, lui, au bagne. Mais on va le renvoyer en France, parce qu'il n'est pas trop dangereux. Donc, à l'été 1801, il est libéré, notre Ange Pitou, et s'embarque sur la frégate La Dédaigneuse pour la France, sur le bon vouloir de Fouché. Et pourquoi donc? Ben parce que notre Pitou, s'il a le verbe facile, il a aussi la plume alerte, et il a écrit au ministre, et il est tombé sur Fouché. Fouché va dire en fin de compte, ce garçon, bof, il n'est pas dangereux, c'est un chansonnier. On va le faire revenir. Le 31 août 1801, il sera au Havre. Mais au début, on ne va pas l'élargir. On va quand même l'envoyer à la prison Sainte-Pélagie jusqu'en 1803. Il est au purgatoire. Bonaparte est bien en place depuis le 18 Brumaire. Et là, Ange Pitou va bénéficier d'un coup de pouce du destin. Étant en prison, à Sainte-Pélagie, il va être informé plus ou moins d'une affaire de fausse monnaie. Et il va faire éventer, alors qu'il dit qu'il est pour rien, un projet de fabrication d'1 milliard de faux billets. Cela va venir aux oreilles de Bonaparte, qui va le faire libérer. Et Anspitou avoue n'avoir rien fait de particulier dans cette affaire. Alors que il a peut-être livré quelques informations qui ont permis de sortir de prison. Mais enfin. Donc, il va se faire oublier en ouvrant une librairie à Paris. Il passe l'ère napoléonienne sans encombre, avec une petite protection de Napoléon. Et au retour des Bourbons, il dit enfin, moi, le royaliste, je vais pouvoir quand même m'exprimer et revenir au premier plan. Eh bien, pas du tout. Louis XVIII ne s'intéresse pas du tout à ce petit personnage. Il est toujours dans sa librairie. Alors, il va écrire ses mémoires. Discrètement, il écrit « Voyage forcé à Cayenne dans les deux Amériques et chez les anthropophages ». Il écrit aussi « Une vie orageuse et des matériaux pour l'histoire ». Et les déportés de Fructidor, d'Ange Pitou, ne paraîtra qu'en 1909. Ange Pitou mourra le 8 mai 1846, à presque 80 ans. La postérité, comme beaucoup d'hommes célèbres, viendra après le trépas. Mais comment ? Oui, célèbre. Il sera un des personnages importants d'Alexandre Dumas, dans le troisième volume de « Mémoire d'un médecin » qui porte le titre d'Ange Pitou. Ce jeune homme qui va traverser la Révolution de 1789 à 1801 avec plus de bonheur que de malheur et dont la vie va être romancée par le grand écrivain. Charles Koch va créer l'opérette « La fille de Madame Angot ». Cette dame, à l'époque de la Régence, venant du peuple, subitement enrichie, avec la jolie Clairette. Et cette pièce va être créée à Bruxelles en décembre 1872 et aux Folies Dramatiques de Paris le 21 1873. Et la fille de Madame Angot, cette opérette, sera reprise dans le monde entier. Il n'y a pas une harmonie de nos villes qui ne mettra pas cette pièce à son répertoire. Ne serait-ce que nos amis disparus, Abel L'Enfant, le chef des Enfants du Loir de Cloyes, Christian Perret, le chef de l'harmonie municipale de Châteaudun, le jour de la Sainte-Cécile en 1960. Et Juliette Benzoni, plus près de nous, va publier aux Presses Pocket Le jeu de l'amour et de la mort, une trilogie qui fait de Ange Pitou un des personnages récurrents de cet ouvrage. Il possédait le visage le plus gai qui soit, avec son nez retroussé, sa grande bouche, dont le sourire était l'expression habituelle, avec sous ses cheveux passants qui bouclaient naturellement, des yeux bleus, pétillants de malice, il portait avec beaucoup de naturel le nom céleste d'Ange Pitou. En conclusion, Louis-Ange Pitou ne faisait rien comme les autres. Il faisait quelquefois mieux, mais jamais autrement.
Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette promenade longue avec Ange Pitou, qui est mort à 80 ans et qui a fait beaucoup, beaucoup de pour la postérité. Il nous a laissé des écrits, même des chansons. Au revoir, donc, et à une prochaine fois.